9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Le premier sujet que nous allons aborder ce matin est capital pour l'avenir de notre pays. C'est la formation professionnelle qui est en France une catastrophe. Or, Jean Castex a annoncé un plan d'1,4 milliard et s'est passé complètement inaperçu. François Asselin, le président de la CGPME, qui a été central dans l'élaboration du projet, est mon premier invité ce matin. Je recevrai ensuite Dominique Enrac, le président d'une autre confédération, celle de la boulangerie-pâtisserie, pour parler de notre emblème national, la baguette. Il y a une grosse actualité sur la baguette de pain. Et l'on terminera l'émission avec Rachel Lang, la réalisatrice de Mon Légionnaire, avec Louis Garrel et Camille Cotin, qui sort mercredi en salle. Et oui, ce sont les femmes aujourd'hui qui font des films sur les légions étrangères.
Europe 1.
François Asselin, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes président de la CGPME, la Confédération Générale...
La CPME, pardonnez-moi.
La CPME, c'est vrai qu'on a... Alors, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, maintenant. Une organisation patronale qui fédère 150 000 PME, représentant 3 millions de salariés, et qui a été au centre du projet du gouvernement, d'où mon invitation, car les enjeux sont énormes, comme on va le voir. La France, en effet, se classe au cinquième rang des pays de l'OCDE, où les compétences des adultes sont les plus faibles. C'est un vrai problème qui ne date pas d'hier. Un peu moins d'un tiers des Français de 25 à 64 ans suivent chaque année une formation professionnelle. Un peu moins d'un tiers contre 41% dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Ces chiffres vous font peur ?
Non, ils ne font absolument pas peur. Au contraire, ces chiffres me font penser qu'il faut absolument se ressaisir, prendre le problème à bras le corps, parce que la qualification, la qualité de formation des Français, c'est au bout de tout cela la performance des entreprises, c'est la possibilité de maintenir son rang dans la compétition internationale, c'est l'unique solution pour développer ce rang et retrouver des couleurs au niveau tissu industriel, artisanal, dans les services. Donc c'est un sujet majeur, un sujet qui est pas très grand public, mais qui touche tous les publics.
Et qui explique en partie la difficulté pour les entreprises de recruter, comme c'est le cas en ce moment ?
Oui, on se retrouve dans une situation que, vous savez, très paradoxale, hein, où on a eu en septembre le record des demandes d'emploi, plus d'un million. Hein, et puis en face, on n'arrive pas à trouver les compétences dont nous avons besoin avec, ne serait-ce qu'en catégorie A, donc la catégorie des Français qui n'ont aucun travail, de plus de 3,5 millions. Personne. Donc il y a un problème majeur d'inadéquation entre ceux qui recherchent des compétences et ceux qui recherchent un employeur.
Donc ça explique aussi en partie le chômage.
Alors ça explique en partie le chômage. C'est multifactoriel en fait. Hein. C'est-à-dire que si on parle de formation professionnelle, eh bien il faut prendre le sujet déjà à la racine. Hein. Et la racine, c'est l'orientation. C'est-à-dire que les personnes, les jeunes qui arrivent en entreprise sont le fruit de leur éducation dans la famille, leur instruction à l'éducation nationale, et puis ils arrivent dans le milieu professionnel. Donc déjà, au niveau de la formation initiale, il faut être extrêmement exigeant. Il faut qu'un diplôme reflète le vrai niveau du diplôme. Et puis quand on rentre dans le milieu professionnel, eh bien non, tout ne s'arrête pas en termes de formation. Il faut continuer à se former tout au long de la vie parce que, on le voit bien, notre environnement ne cesse d'évoluer. Et donc, pour ne pas décrocher et pour rester toujours d'une façon optimum bien maître de son avenir professionnel, il faut accepter de se former. Alors c'est une responsabilité croisée entre celle du salarié et celle de l'employeur.
La formation professionnelle en France est une machine à creuser les inégalités, on a l'impression. Je vous donne un exemple. Sur les 12 derniers mois, 65% des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur long ont reçu une formation, mais seulement 15% des non-diplômés. Comment ça s'explique ?
Alors ça s'explique d'une façon assez simple, c'est-à-dire que lorsque vous avez une formation supérieure, généralement, dans l'entreprise, vous avez dans un emploi d'employé intermédiaire ou de cadre. Et généralement, lorsque vous avez un emploi de cadre, vous avez un accès à l'information qui vous permet, d'une façon, on va dire, individuelle, de connaître vers quelle orientation vous devez vous former. Quand vous êtes opérateur, là, vous avez moins d'accès à l'information pour savoir quelle va être l'évolution de votre métier. Souvent, celui qui a cette information, surtout dans les PME, c'est votre employeur. Dans les plus grandes entreprises, ça va être la direction des ressources humaines, mais c'est souvent votre employeur. Et l'employeur est le premier stratège pour former, pour élever en formation l'ensemble de ses salariés. Malheureusement, en 2018, après la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, sur l'apprentissage ça a très bien fonctionné, mais sur la formation professionnelle, on a perdu ce qu'on appelait la mutualisation, les fonds de mutualisation pour former dans les PME nos salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans une PME de 51 à 300 salariés, lorsque vous voulez former vos salariés, vous devez leur demander de mobiliser leur compte personnel de formation. Vous savez, c'est ces fameux 5 500 € qui sont sur votre compte maximum, qui sont sur votre compte individuel. Là, l'employeur n'a plus la main là-dessus. Ça appartient au salarié, à la personne physique. Ce qui veut dire que lorsqu'un employeur veut former ses salariés, eh bien, il doit demander, entre guillemets, l'autorisation à ses salariés de mobiliser leur compte personnel de formation. C'est très compliqué, ça ne fonctionne pas bien. Et donc, nous, ce que nous avons obtenu très récemment de la part du Premier ministre, c'est de réallouer, de réorienter ces fonds mutualisés vers les PME. Il y a une enveloppe de 600 millions d'euros qui a été fléchée pour que dans les PME, on retrouve les plans de formation qui permettent de faire monter en compétences collectivement et individuellement nos salariés. C'est très important.
Et de même, les chômeurs sont proportionnellement moins nombreux à recevoir une formation que ceux qui ont un emploi. Là aussi, comment ça s'explique ?
Alors, ce qui s'est passé à travers la réforme, c'est que on a mis des moyens considérables pour former, on va dire, massivement les chômeurs. Mais dans des formations qui, finalement, parfois sont un petit peu tardives pour les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire qu'ils commencent par des périodes de non-activité, de chômage, et attendent quelques semaines, parfois quelques mois, pour avoir une formation. Et cette formation, malheureusement, n'est pas toujours en adéquation avec les attentes des entrepreneurs. Nous avons demandé là aussi à Elisabeth Borne, au gouvernement, de renverser la table et de remettre les branches professionnelles et les entreprises, les employeurs au centre du dispositif de formation des demandeurs d'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sait parce que ça a déjà été expérimenté à travers ce qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi, la POE. On sait que lorsqu'on met un demandeur d'emploi dans une entreprise qui a des besoins de recrutement et qu'on associe à l'entreprise et au demandeur d'emploi une formation qui correspond à son milieu professionnel et à ses attentes, eh bien on sait que dans plus de 80% des cas, cela débouche vers un CDI. Donc c'est extrêmement efficace. Donc ce que nous avons demandé, là encore, c'est de réorienter des moyens vers ces préparations opérationnelles à l'emploi, qu'on remette les entreprises au cœur du dispositif de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, plutôt que de les extraire du milieu professionnel et de les mettre quelque sorte en couveuse, en formation, avant de retrouver une entreprise qui aura besoin d'eux.
On comprend donc que quand on est au chômage et pas diplômé, on a beaucoup moins de chances en France d'être formé professionnellement que si l'on est très diplômé et qu'on a un emploi. François Asselin, on fait une pause. On se retrouve juste après. J'ai encore beaucoup de questions.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec François Asselin, le président de la CPME, qui a joué un rôle important dans le plan d'1,4 milliard, dont 60% pour la formation des chômeurs, que vient d'annoncer, dans l'indifférence générale, malheureusement, le Premier ministre Jean Castex. Alors ce plan, pour vous, il va dans la bonne direction, François Asselin ?
Oui, il va dans la bonne direction. Vous savez, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout cela, c'est que en ce qui concerne la formation professionnelle, globalement, on ne manque pas de moyens dans notre pays. C'est-à-dire que les entreprises en France cotisent beaucoup pour la formation professionnelle, que ça soit de leurs salariés à travers le compte personnel de formation ou de celle des demandeurs d'emploi, des chômeurs. Donc il y a des moyens. Maintenant, il faut réaffecter les moyens vers là où c'est efficace. Alors, au-delà des grands chiffres, si ça va dans la bonne direction, vous savez, on sera satisfait que si tout cela est efficace.
Vous dites qu'on a les moyens. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on met les moyens, plus de 30 milliards par an, je crois. Et alors, d'après mes renseignements, financé à 45% par les entreprises et à 50% par l'État, donc par les contribuables. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres ?
Alors, c'est pas tout à fait cela. C'est-à-dire que la formation professionnelle en France, hein, qu'elle soit celle des demandeurs d'emploi ou des salariés des entreprises, et même de l'apprentissage, c'est financé par les employeurs. C'est-à-dire, dès que vous avez un salarié dans une entreprise, vous avez sur le salaire brut de votre salarié une cotisation pour la formation. Et donc, cette somme remonte à travers un organisme qui s'appelle France Compétences et qui, lui, ensuite, va dispatcher le fruit de la collecte, c'est 30 milliards d'euros, entre la Caisse des dépôts et consignations, entre l'apprentissage et l'endroit où on va former les apprentis, les centres de formation des apprentis, et puis Pôle emploi pour former à travers ce qu'on appelle le PIC, hein, le plan d'investissement dans les compétences, et vous avez la déclinaison en région, hein, les PRIC, hein, régionaux, hein, pour former les demandeurs d'emploi. Au total, ce sont les entreprises qui financent l'ensemble de ces 30 milliards d'euros. Parfois, vous avez des abondements, effectivement, de l'État, comme ça a été le cas, par exemple, au moment de la loi El Khomri, où on avait voulu former d'une façon massive 500 000 demandeurs d'emploi. Et donc là, l'État est venu en abondement. Mais dans le fonctionnement régulier de la formation, eh bien, qu'elle soit initiale au niveau professionnel ou des salariés ou des demandeurs d'emploi, ce sont bien les entreprises qui financent l'ensemble de la formation dans notre pays. Autant vous dire que il faut absolument que les entreprises soient au cœur du dispositif et que si on paye, eh bien qu'on ait entre guillemets le retour sur investissement et nous est en droit de demander à ce que ce soit efficace.
Alors pour l'instant, ça ne l'est pas tellement, hein, comme on l'a vu. Le CDE nous dit qu'on est très 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 mal classé en matière de formation professionnelle. Alors on peut se demander peut-être que cet argent n'est pas bien dépensé, car il y a des milliers de prestataires en France et il n'y a aucun contrôle. C'est comme si n'importe qui pouvait ouvrir une école et recevoir des subsides de l'État pour former nos enfants.
Oui, alors, c'est parfois le cas. Hein, on ne va pas dire que ça n'existe pas. Hein, il y a effectivement des dérives par rapport au système. Vous savez, à partir du moment où vous avez, bien évidemment, beaucoup d'argent, eh bien, il faut s'attendre parfois à ce qu'il y ait des écarts. Donc, il y en a. Si vous voulez former professionnellement des personnes, hein, adultes, par exemple, eh bien, vous devez demander un agrément auprès d'un service spécifique à France Compétences qui va juger si vous êtes en droit d'avoir ou pas cet agrément. Ce qu'on a pu constater, c'est que comme on a individualisé la formation à travers, vous savez, ces fameux comptes personnels de formation, finalement, le salarié se retrouve, ou l'actif se retrouve avec son compte personnel de formation, et c'est lui qui va choisir le prestataire qui va lui faire sa formation. Malheureusement, parfois, il n'est pas en capacité de détecter quel est le bon du moins bon prestataire. On peut le comprendre, c'est pas son métier de choisir un prestataire. Or, autrefois, lorsque l'employeur avait, entre guillemets, la main sur la formation de ses salariés, eh bien, il y avait ce filtre professionnel, souvent accompagné d'ailleurs par un conseiller formation de ce qu'on appelait à l'époque une OPCA. Hein, c'était un organisme qui accompagnait les entreprises, maintenant on appelle ça des OPCO, dans leur plan de formation, pour faire en sorte que, oui, on pouvait savoir exactement quelle était la bonne ou la moins bonne formation. Donc, le contrôle est compliqué, hein, il faut bien l'admettre.
Les prix sont chers aussi.
Et surtout le fait d'avoir sorti l'employeur de la stratégie de la formation, eh bien, ça n'a pas tellement amélioré les choses.
Les prix sont chers. D'après la Cour des comptes, une heure de formation professionnelle en France, ça coûte 73 euros, contre 54 euros seulement en moyenne en Europe. C'est 35% plus cher chez nous.
Oui, alors, il faut toujours se méfier de ces moyennes, parce que dans certaines formations, 75 euros, c'est le vrai prix et c'est même pas cher. Et puis dans d'autres formations, c'est hors de tarif, c'est mais hors de prix.
C'est une moyenne,
surtout
évidemment.
Lorsqu'on a de plus en plus numérisé les choses, hein, à travers ce qu'on connaît maintenant, hein, les visios ou autres. Donc, il peut y avoir effectivement des prix prohibitifs. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est le résultat. C'est ça le plus important, c'est l'aspect qualitatif. C'est-à-dire que si vous avez vraiment une formation qui coûte relativement cher, mais où à la sortie, la personne, eh bien, monte d'un cran en compétences ou retrouve de l'emploi, eh bien, ça sera un investissement utile.
Les entreprises, est-ce qu'elles évaluent bien les besoins de formation de leurs employés? On n'est que 15e sur 24 sur ce plan, selon le CDE. Or, c'est absolument primordial de savoir anticiper les besoins et choisir la formation adéquate. Selon le CDE, dans les années qui viennent, 32% des emplois vont changer de contenu du fait des progrès technologiques. Et 14% risquent d'être automatisés. La formation professionnelle est donc indispensable pour la plupart d'entre nous, mais il faut qu'elle soit de qualité et surtout à la hauteur des enjeux.
Vous avez raison, Frédéric Taddeï, c'est-à-dire que souvent dans les entreprises, on ne mesure pas toujours l'importance de former ou de faire monter en formation, en capacité, nos propres salariés. Donc c'est une chose très importante, évidemment, hein, pour l'entreprise elle-même et pour les salariés, bien évidemment, aussi. Hein. Et pour ce faire, souvent l'employeur, surtout dans la PME, a besoin d'être aussi accompagné. Et cet accompagnement, on l'avait perdu quelque part. Alors on va le retrouver parce que le gouvernement va remettre ce qu'on appelle de l'ingénierie de formation dans les PME, à savoir on va avoir des conseillers de formation qui vont venir accompagner les employeurs. Et puis il y a un outil très important dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la gestion des emplois prévisionnels et des compétences, la GPEC. C'est extrêmement important, ça vous permet d'avoir une cartographie des compétences de votre entreprise avec la pyramide des âges et de savoir dans les 3, dans les 5, dans les 10 ans que vous avez devant vous, où il faut faire monter en compétences et qui faut-il faire monter en compétences pour que votre entreprise elle-même reste compétitive.
Merci François Asselin d'avoir été mon invité sur Europe 1. Espérons que le plan de Jean Castex va dans la bonne direction. Encore une fois, les enjeux sont énormes. On se retrouve dans un instant avec Dominique Enracte. On va parler de la baguette.
9h-10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Dominique Enracte.
Bonjour.
Vous êtes président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, forte de 33 000 entreprises artisanales, qui organise du 4 au 6 octobre sur le parvis de Notre-Dame de Paris le 7e concours national de la meilleure baguette de tradition française, cette même baguette qui vient d'être choisie par la France pour être candidate au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, un projet que vous soutenez depuis 3 ans. Pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce que ça changera? On n'a pas attendu l'UNESCO pour perpétuer cette tradition de la baguette qui symbolise notre pays depuis belle lurette. Le français avec sa baguette et son béret, on n'a plus le béret mais on a toujours la baguette.
Oui, c'est vrai. Alors, on imagine que cette baguette est mangée tous les jours. 12 millions de clients chaque jour dans les boulangeries, c'est quand même, c'est plus que les SNCF. Donc, c'est vrai qu'ils s'en mangent beaucoup. Mais le problème, c'est que cette baguette, fameuse baguette de tradition, ce savoir-faire qu'on veut déposer, ça risque de disparaître. Pourquoi ? Parce qu'il faut, avec cette mondialisation, cette industrialisation, beaucoup de produits arrivent à se répandre sans que ça puisse être fait dans des petites boulangeries. Ils ferment quand même tous les ans 1000 boulangeries en France. Hein. Alors ils s'en rouvrent 1200, c'est-à-dire qu'on a un quota positif, mais dedans il y a des chaînes et il y a des choses qui font pas tout à fait cette baguette. Donc on a peur qu'elle disparaisse.
La baguette existe depuis combien de temps? Est-ce qu'on le sait?
Oui, c'est quelque chose qui est arrivé, pas brutalement, qui est arrivé petit à petit, mais on a des traces d'une bonne centaine d'années. Quelques traces dans le Figaro, notamment, de la baguette dans 1920.
Mais, au départ, c'était parisien, la baguette, je crois. Et c'est seulement au XXe siècle que ça... Et même, je crois, après la Seconde Guerre mondiale, qu'on la trouve partout en province.
Tout à fait. Alors, ça a commencé un petit peu plus tôt. Ce qu'on appelait les pains longs, comme je disais, il y a une centaine d'années, arrivaient gentiment, petit à petit, à avoir des pains un peu plus longs, plus faciles à cuire, des familles moins nombreuses et pouvoir l'acheter régulièrement. Donc c'est un pain qui s'est installé petit à petit comme ça, déjà sur Paris. Et après, c'est vrai qu'il a fallu attendre bien une quarantaine, cinquantaine d'années pour que ça commence gentiment à aller en province. On avait, rappelez-vous, en province, moi j'ai connu ça, on demandait une grosse.
Et une grosse et une petite. Une grosse et une petite, effectivement. Pourquoi est-ce que nous sommes tellement attachés à notre baguette de pain, qui représente encore, je crois, 70% des ventes de pain, c'est la baguette, alors que c'est quand même un pain de 3 heures, il sèche au bout de 3 heures, c'est pas très pratique.
Alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est quand même, cette baguette, c'est vrai que c'est ancré dans la tête des gens. On parle de, par exemple, pour ce dépôt à l'UNESCO, de la culture de la baguette de pain. C'est la première course qu'on donne à faire à un enfant. C'est d'aller acheter la baguette.
Oui,
le premier quignon de pain pour se faire les dents, c'est le quignon de baguette. Le petit pain qu'on met dans la poche l'après-midi après la cantine pour au cas où, c'est de la baguette. Le sandwich, vous savez que le sandwich au jambon, il y a un indice du jambon beurre.
Ça veut dire le vrai sandwich au jambon.
Le vrai Paris beurre, il y a un indice. Donc ça veut dire, comme l'indice Nikkei, qui s'en fait un petit peu. Donc elle est quand même très très, elle est présente le matin, le midi sur toutes les tables, même donnée gratuitement dans les restaurants. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très marqué en France.
Et toutefois, on mange trois fois moins de pain que nos aïeux.
Alors, c'est vrai qu'après-guerre, on était à 500-600 grammes de pain par jour, mais la consommation était différente. C'était l'aliment, je dirais pas unique, mais presque. Aujourd'hui, c'est devenu un produit tout à fait bien dans le panier de la ménagère, qui est équilibré, qui est un produit de qualité, mais qui est quand même là, présent tous les jours, où les gens ont l'habitude d'aller acheter tous les jours leurs baguettes.
Vous vous êtes doté en janvier 2020, je crois, d'un label Boulanger de France pour lutter contre la concurrence des industriels à laquelle vous faisiez allusion il y a un instant. Il y avait déjà le label Boulangerie artisanale depuis 1998. C'était déjà votre confédération qui en était à l'origine. Ça n'était pas suffisant ?
Tout à fait. Alors on a commencé déjà par la baguette de tradition en 93, puisqu'avec cette arrivée, c'est vrai, on disait les industriels nous prennent la noblesse du métier de la fabrication.
Oui, c'était les dépôts de pain, les supermarchés,
les supérettes. Et les gens ne faisaient pas la différence. Donc on a arrêté ce décret en 93 qui lui disait c'est pour la farine de tradition, pas de congélation, fait sur place. Et ensuite on a eu cette loi en 98 avec une bonne bagarre où le pain a été réglementé, c'est-à-dire que si vous voyez boulanger ou boulangerie sur une façade, forcément les gens fabriquent leur pain sur place. Alors effectivement, on trouve qu'aujourd'hui ça n'a pas suffi parce que avec cette arrivée des produits industriels, de la sous-traitance, on s'est dit voilà, les consommateurs sont dans la rue, bon le pain est réglementé, il n'y a pas de problème, mais il y a tout plein d'autres produits à côté, comme les croissants, la pâtisserie, le snacking, qui sont des produits qu'on trouve couramment dans la boulangerie, sont aujourd'hui n'ont pas d'obligation d'être marqués. Alors on a voulu une charte de qualité, un label qui s'appelle Boulanger de France, avec lequel c'est une démarche volontaire du boulanger qui dit voilà, moi je vais tout faire et je le fais vérifier par un cabinet indépendant. Ce qui fait qu'on a la certitude que les produits sont faits maison. Et c'est pas seulement la fabrication, il y a tout un côté RSE, c'est-à-dire le grammage de sel, le fait de prendre des apprentis pour pérenniser le métier, retraiter les invendus pour pas qu'il y ait de gaspillage, prendre des produits plutôt de saison, etc.
C'est quoi la différence pour vous entre une baguette faite maison par un vrai boulanger et toutes les autres baguettes ?
Alors on parlait justement tout à l'heure de garde. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, la baguette n'est pas un produit qu'on va prendre comme un gros pain au levain qui va être cuit une heure pour se garder. La baguette est quand même un produit du jour, mais une baguette de tradition, si peu qu'elle ait quand même cette fermentation supérieure, la première fermentation, ce qui est comme le vin, les essences qui peuvent se fabriquer, vont donner une meilleure conservation.
Plus de 3 heures.
Bien sûr, il faut déjà au moins 3 heures pour la faire, voire entre 3 et 24 heures s'il y a des fermentations, et cette baguette se conservera quand même beaucoup mieux.
Oui, parce que généralement, c'est les boules, les miches, c'est le gros pain qu'on conserve facilement, surtout si on ne le fait pas trancher d'ailleurs.
Tout à fait. Ce sont des pains qui sont faits pour la conservation. Mais c'est vrai que le travail, enfin la baguette industrielle et la baguette de tradition n'a rien à voir. Au niveau du pétrissage, temps de pétrissage, en plus, la baguette de tradition, c'est quand même de la farine, de l'eau, du sel, de la levure, éventuellement du levain. Et il y a 4 étapes qui sont là, c'est le pétrissage, la fermentation, très importante, façonnage à la main, ça une machine ne peut pas le faire, et la cuisson. Et avec ces 8 choses que je viens de vous énumérer, il y a des milliers de recettes en fait, un peu plus de température, un peu moins de fermentation, et ça nous donne des baguettes qui ont un alvéolage qui n'a rien à voir avec un produit industriel.
Dominique Aurac, on fait une pause et on continue de parler boulangerie et pâtisserie.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Dominique Aurac, le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Vous dites qu'il faut entre 3 et 24 heures pour fabriquer une vraie baguette. Pendant ces entre 3 et 24 heures, il y a combien de temps de phase active où le boulanger véritablement pétrit ?
Voilà, alors il faut voir qu'on a le pétrissage, donc c'est déjà le choix d'une farine de qualité, donc ça, on va dire que c'est actif ou pas actif, mais il va y avoir déjà ce pétrissage avec une grosse hydratation, bien supérieure à une baguette normale. On arrive à 70 voire 75% d'hydratation. Donc ensuite, ce qui va être, c'est un pétrissage lent, qui va changer par rapport à ces pétrissages avec beaucoup d'acide ascorbique ou d'améliorant. Ensuite, ce qui va être très très important, c'est cette fermentation. Donc on sait que ce qu'on fabrique sur une baguette de tradition, si on veut la faire en direct, il faudra au moins 3 heures de fermentation avec toutes les heures des rabats pour rabattre, remélanger cette pâte. Et après, selon les process, beaucoup laissent par exemple cette pâte pousser avec des températures un peu plus basses et ça va jusqu'à 24 heures de fermentation où ça développe les arômes. Alors ensuite, sur cette baguette, il va falloir la façonner, la diviser laisser de l'après, la façonner à la main, laisser une pousse et ensuite la cuire. Donc la cuire, on va entre 20 et 25 minutes, voire 28 minutes pour une baguette bien cuite. Donc tout ça sont des process qui se suivent, à respecter, sont des recettes traditionnelles hein, qu'on a dans le temps et qui, quel que soit le matériel, ne changent pas.
Et à la fin, vous la vendez combien la baguette? Entre 85 centimes et 1 euro en moyenne hein?
Alors, c'est vrai qu'il y a chaque boulanger est responsable de son prix, hein, du prix de revient qu'il doit pour la pérennité de son affaire. Mais on sait qu'il y a des us et coutumes, qu'on voit la baguette entre 80 centimes et ça va même jusqu'à 1,50 €. Vous savez, on sait qu'on a, au niveau de la baguette, alors je dirais pas la baguette de tradition, mais le pain en moyenne, en 20 ans, a pris 23 centimes d'augmentation. Et on sait que c'est vrai que le prix n'a pas suivi en fait le cours de la vie. Donc c'est ce qu'on appelle un bien de Diffène.
Quand on sait le temps que ça prend de fabriquer une baguette, on comprend pourquoi votre concours de la meilleure baguette s'étale sur 3 jours.
Le concours de la baguette va prendre tous les champions régionaux qui eux vont venir s'affronter sur le parvis de Notre-Dame où on a mis donc sur la place en face Notre-Dame. Donc quel plus grand symbole que Notre-Dame et le kilomètre zéro quand même. Et là donc ils vont faire chacun une journée, ils ont le même temps, la même farine, même sel, même four, même matériel, même pétrin. Et au bout de 3 jours, enfin deux équipes chaque jour, et le dernier jour il y aura la finale. Et là à 17h on donnera le champion de France de la baguette. Et là c'est vrai qu'on va couronner un champion qui va lui emmener toutes les valeurs de la boulangerie.
Pourquoi vous êtes devenu boulanger vous, Dominique Henrac?
Je crois qu'il y a deux raisons. Déjà, mon père était boulanger, donc j'ai vraiment des souvenirs du bruit du pétrin, du laminoir, et aussi de mon père travailler la nuit. Ça me fascinait. Quelquefois, je me levais pour aller avec lui. On a l'impression d'avoir un privilège de pouvoir se lever la nuit. Alors ça m'est passé un peu depuis.
Oui, parce que souvent, on souffre d'être décalé, justement.
Oui, mais c'est une habitude. Vous savez, aujourd'hui, on a moins de mal à trouver un boulanger qui va attaquer la nuit que l'après-midi. Un boulanger est un gars qui souvent travaille la nuit, envoie sa journée et après il se sent un peu libre. Donc voilà, le travail de nuit n'est pas un problème pour un boulanger.
Ça s'apprend où le métier de boulanger? Vous aviez votre père qui le pratiquait, mais sinon?
Tout à fait. Ben la plupart, enfin, ce qui est depuis des temps, c'est l'apprentissage chez nous. C'est cette voie royale, c'est-à-dire qu'un jeune dit, bon voilà, je vais aller faire boulanger. Donc il va chez un patron. Alors à l'époque c'était 12-13 ans, maintenant c'est 16 ans, de 16 à 30 ans. On peut aujourd'hui faire un apprentissage qui est pris en charge quand même. Donc là, c'est l'alternance, hein, moitié chez un patron, moitié à l'école. Et il y a aussi des lycées professionnels sur lesquels, quelquefois, des jeunes peuvent être un peu plus... les parents veulent pas ou un peu juste mûrs pour aller, donc on les met en lycée pro. Puis ça fait deux formations différentes. Mais il y a aussi des formations pour des reconversions, c'est-à-dire des adultes.
Il paraît qu'il y en a beaucoup.
Alors bah écoutez, là j'ai une école à Paris qui en a 50 par an, une autre qui en a 80. Il y a vraiment un vrai engouement pour ce métier. Certains dans des grandes entreprises, quelquefois, pensent être du numéro. Et ils ont un vieux souvenir, un vieux rêve de boulangerie ou une passion pour le pain. Et ils abandonnent tout et ils se mettent à apprendre la boulangerie.
En janvier, vous vouliez recruter 9000 personnes. En janvier dernier, hein, vous y êtes parvenu?
Alors bah écoutez, je crois qu'aujourd'hui c'est pire. Donc moi j'avais lancé une alerte au moment de Parcoursup en disant voilà, vous ne savez pas où mettre vos enfants. Quelquefois, quelquefois ça marche en fac, hein, mais quelquefois ils traînent assez longtemps pour qu'on les récupère après, limite qu'ils ne perdent pas de temps et qu'ils viennent chez nous. On a vraiment besoin d'apprentis, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et moi je peux dire aux jeunes que chez nous, vous venez, même aux parents, hein, confiez-nous vos enfants, on en fera des CDI, voire des meilleures voies de France.
Pendant le premier confinement, les boulangeries ont perdu entre 40 et 60% de leur chiffre d'affaires. Vous l'expliquez comment? Parce qu'a priori, on se dit, on allait tous acheter le pain. C'était même une joie d'ailleurs, parce que c'était l'occasion de sortir.
Alors, c'est pas si simple en fait. Le premier confinement, en fait, les gens se sont rués dans les supermarchés, même dans les boulangeries. J'ai des collègues où les gens se sont bagarrés pour une boule de pain. C'est-à-dire, c'était l'effet de guerre, tout le monde faisait des stocks. Et après, plus personne. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que dans des endroits comme Paris, où les gens, moi je suis dans le 16e, tout le monde avait une maison de campagne, on a fait moins 80, il n'y avait plus personne. Plus personne en ville, les gens sortaient peu, de toute façon ils n'avaient pas le droit. On a eu quelquefois des gens qui ont pris des PV parce qu'ils allaient acheter seulement une baguette, et donc les gens ne prenaient plus de pâtisserie. plus de sandwich, plus de salade, c'est-à-dire plus de restauration hors domicile.
Oui, c'est le stacking, c'était l'explication que je m'étais donnée. Je m'étais dit, en fait, le stacking représente beaucoup pour les boulangers.
Ça dépend
aujourd'hui.
Des endroits. Par exemple, un endroit comme La Défense, ça peut représenter 80% du chiffre d'affaires.
Alors, du déjeuner,
c'est que
donc,
des bureaux, voilà,
bureaux,
déjeuner, petit déjeuner, après c'est fini. Par contre, toutes ces entreprises qui travaillent le week-end, qui faisaient des pâtisseries, tout ça, eux ont pris un peu du plomb dans l'aile aussi, parce que les gens prenaient le minimum, quoi, du riz, de l'eau, du papier toilette, du pain, et c'est tout. Donc ça faisait une grosse part de perte de chiffre d'affaires.
Le 7e concours national de la meilleure baguette de tradition française, c'est donc sur le parvis de Notre-Dame, du 4 au 6 octobre. Il y aura beaucoup de choses à regarder.
Pas tout à fait, parce qu'il y a déjà une fête du pain. Donc on a construit une tente sur laquelle des gens viennent fabriquer, des apprentis, des professionnels, viennent montrer à toutes les écoles comment on fait le pain, comment on fabrique. Et il y a de la démonstration, on fabrique, on pétrit, on cuit devant le public. Et en plus, il y a les concours qui viennent s'affronter. Donc c'est vraiment une très belle animation et devant Notre-Dame.
Merci Dominique Aurac.
Merci.
On fait une pause et on se retrouve juste après avec Rachel Lang qui a réalisé Mon Légionnaire, un film qui sort mercredi prochain en salle.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Rachel Lang.
Bonjour.
Vous êtes la réalisatrice de Mon Légionnaire, un film qui sort mercredi avec Louis Garrel et Camille Cotin dans les rôles principaux. La plupart des films sur la Légion étrangère, ils sont... Il s'agit d'un film sur la Légion étrangère, alors que ce soit avec Jean Gabin ou Gary Cooper, date d'avant la Seconde Guerre mondiale, tout comme la chanson d'Edith Piaf, c'était en 1937. Depuis lors, à part La Légion saute sur Colvézi de Raoul Coutard en 1978, d'après un livre de Pierre Sergent, l'un des chefs de l'OS, un film qui avait été catalogué immédiatement de droite et voué aux gémonies, on ne fait plus de guerre de films sur la Légion, à part des femmes. Claire Denis, d'abord, avec Beau Travail en 1999, et vous, aujourd'hui, avec Mon Légionnaire. C'est drôle, pourquoi les femmes ?
Pourquoi les femmes s'emparent de ça ? Je ne sais pas.
Déjà, du film sur l'armée aussi, parce qu'aux États-Unis, on pourrait parler de Catherine Bigelow.
Tout à fait.
L'armée, mais la Légion en plus.
Mm-hmm. Je crois que c'est une arène particulière qui attire et qui est mystérieuse et qui donne envie de se plonger pour comprendre qu'est-ce qui s'y passe. Peut-être que c'est ça, qu'il faut avoir beaucoup de courage pour essayer de pénétrer. C'est un milieu très fermé et du coup, il faut être une femme pour oser y aller.
Peut-être, oui. Vous-même, vous êtes soldat ou officier de réserve, je crois.
Oui, c'est ça, je suis officier de réserve.
Donc, c'est l'armée qui vous attire au départ.
Oui, enfin, au départ, c'est un hasard, hein, parce que j'ai rencontré l'armée complètement par hasard. Je cherchais un job d'été et il se trouve que j'ai été faire mes classes dans un régiment d'artillerie. Et ça a été une expérience géniale qui a fait que, oui, j'y suis restée. Mais ce n'était pas une attirance...
particulière.
À la base, non.
Un militaire ne s'excuse pas, dit le colonel au début du film. J'avais jamais entendu cette phrase.
C'est une règle comme ça, en fait, quand on est à l'armée, qu'on dit pardon, tout de suite on se fait reprendre parce qu'il n'y a pas de pardon, en fait. Si on fait une erreur, on entend, on dit reçu, j'ai reçu que j'ai fait une erreur, mais c'est tout, on ne pardonne pas parce qu'en fait, si on fait une erreur au moment où il ne faut pas, on peut risquer la vie et la mort, enfin la mort de ses camarades, du coup on ne dit pas pardon, on dit reçu.
La France, à la différence des États-Unis, a une vieille tradition de films antimilitaristes. C'est en train de changer, j'ai l'impression. Le rapport que l'on entretient avec l'armée n'est plus le même. Quand un de nos soldats tombe au Mali, on lui fait des funérailles nationales en direct à la télévision, comme Maxime Blasco cette semaine. Son nom est dans tous les journaux et sa femme est médiatisée. Il y a des morts dans votre film également, eux aussi tombent au Mali. Vous le sentez, ce rapport qui change à l'armée en France ?
Bah, pas tellement, en fait. Moi, je fais ce film parce que justement, je trouve qu'il y a un manque de porosité entre le monde civil et le monde militaire. Et depuis qu'il n'y a plus le service militaire obligatoire, il n'y a plus du tout de connaissance des citoyens, en fait, de qu'est-ce que c'est l'armée, qu'est-ce que c'est ce métier. Et alors, effectivement, quand il y a un mort au Mali, on en parle un petit peu au JT, vite fait. On voit quelques images des invalides, mais pas plus, en fait. J'ai l'impression que. Enfin, moi, j'avais l'ambition, en tout cas, de rendre hommage aux familles, aux bases arrière et à ces gens qui s'engagent avec ce film parce que je trouve que, justement, on n'y a pas assez accès.
Vous, c'est pas la Légion héroïque, hein, ni le passé des légionnaires dont on sait qu'il est mis en vedette dans la plupart des films consacrés à la Légion, en tout cas ceux d'avant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui vous intéresse, vous, effectivement, j'ai l'impression, ce sont les femmes des légionnaires.
En tout cas, les familles et toute la base arrière qui fait que l'homme peut partir et que quand il revient, il y a quelque chose qui fait qu'il peut revenir. Donc J'avais envie de parler du couple, en fait, avant de faire un film sur la Légion, parce que c'est plus un film sur le couple et sur comment on peut se retrouver quand on a des vies et des quotidiens hyper différents. Et voilà, du coup, on peut se rendre compte que, enfin, entre un quotidien de légionnaire, un quotidien d'épouse, bah, c'est forcément dur de se retrouver.
Et elles sont courageuses, les femmes de légionnaires. En revanche, vous ne filmez pas les légionnaires, on les voit en opération, au Mali notamment. Vous ne les montrez pas spécialement durs ni musclés, ils ne font pas saut de virilité. Vous les montrez longuement en train de laver leur linge, par exemple. Si, au fond, s'il n'y avait pas les chansons de la Légion étrangère qui retentissaient tout au long du film, on pourrait penser que ce sont des soldats particuliers ou même, pourquoi pas, des gendarmes.
Oui, bah alors après, les légionnaires, ils ont les mêmes missions que les militaires de la régulière. Donc, en fait, c'est pas particulièrement... ils ont un quotidien qui est quand même... comment dire, c'est pas tous les jours qu'un soldat va au feu. C'est très rare, même dans une carrière.
Et c'est très rare dans le film aussi,
oui,
pour la même
raison.
Oui,
exactement. Bah oui, il y a beaucoup plus de temps d'attente, de temps de guetter, d'attendre l'ennemi, de faire des escortes de convoi comme on voit dans le film, ou des missions qui sont beaucoup plus low comme ça. Et effectivement, faire le linge, ça fait partie du quotidien aussi, comme tout le monde, quoi. Et c'est pas les femmes qui font leur linge, chacun lave son caleçon, quoi.
Et je parlais de Catherine Bigelow tout à l'heure, elle fait des films d'action, des films de guerre. Vous, j'ai pas l'impression que ça rentre dans la catégorie film de guerre, hein. C'est pas ce que vous avez voulu faire.
Non, on pourrait dire que c'est un war drama quand même, parce qu'il y a la guerre et il y a un drame, mais en fait il y a peu d'action, il y a peu de faits très retentissants, et surtout on est dans un point de vue qui est celui de Maxime, d'un personnage, et du coup je suis pas en train de découper en montrant tout ce qui se passe là où il peut pas le voir. Donc on reste dans son point de vue, dans le véhicule blindé, avec des comptes rendus radio. Et en fait, c'était important pour moi de montrer ce métier comme ça, de le montrer avec un point de vue précis, et de pas en faire un film où ça tire dans tous les sens et bam bam bam. Voilà, c'était pas le but.
On accuse souvent les films qui montrent des soldats de virilisme. Le vôtre, pas du tout, hein. Ce sont des types assez doux, au fond, que vous nous montrez. Louis Garrel, le lieutenant, quand il est en opération au Mali, ordonne à ses hommes d'appeler leurs femmes. vous voulez les montrer, au fond, assez proches de leurs compagnes qui les attendent en Corse, puisque c'est là qu'est basée la Légion.
Oui, assez proche de leur compagne. Bah, c'est-à-dire que je voulais les montrer comme des êtres humains et pas comme, justement, oui, on a cette image, enfin, souvent dans le milieu duquel je viens, dans le milieu du cinéma par exemple, ou dans un milieu intellectuel de gauche, on va dire, il y a un antimilitarisme comme ça un peu primaire qui fait qu'on se dit, ah oui, c'est des tueurs, c'est des assoiffés de sang, ils ont des couteaux entre les dents. Enfin, en fait, c'est vraiment une vision faussée. Les militaires aujourd'hui, c'est vraiment un métier, des gens, une famille. Et ils sont humains, et ce qu'ils veulent, c'est la paix, en fait. La guerre, c'est toujours la pire des solutions. Ils sont engagés pour défendre leur pays, mais pas pour être des monstres.
Ou alors on leur reproche, comme le font d'ailleurs ses camarades, ses amis dans le film. Les amis de Louis Garrel lui disent, mais au fond, tu vas au Mali pour défendre les intérêts des multinationales. Mmh. C'est beaucoup ce qu'on leur dit aujourd'hui.
Oui, oui, bah c'est ça. C'est un peu ce qu'on a vécu aussi pendant la production du film. C'est-à-dire qu'on a été accueillis... par le milieu du cinéma comme pourquoi faire un film de réac sur l'armée, et on a été accueillis par l'armée comme si on était des troubadours qui voulons faire un film, voilà. Donc des deux côtés, ça a été compliqué. On est dans une position comme ça où...
Ouais. C'est drôle d'ailleurs que le rapport que peuvent avoir les cinéastes en France avec l'armée n'est pas du tout le même que ceux qu'entretiennent les cinéastes, enfin Hollywood en général, avec l'armée aux États-Unis. Ils ont l'habitude, ouais, de travailler avec eux, l'armée lit les scénarios et si elle approuve, elle prête du matériel.
C'est pour ça
qu'ils font beaucoup de films militaristes d'ailleurs, les Américains, alors que nous, non.
Bah, c'est-à-dire que je crois que les Américains, ils ont compris depuis longtemps que ouvrir grand les portes et les fenêtres, c'était toujours mieux que de fermer, en fait. Et que même bad com is good com, enfin, vous allez mieux en parler que de pas en parler. Il y a un truc comme ça. Et je crois que ça, c'est en train d'arriver en France. Nous, on n'a pas eu cette opportunité, mais il se trouve qu'il y a eu des films qui ont été soutenus par la marine, par l'armée de l'air. Et là, l'armée de terre n'a pas encore vraiment ouvert les portes tout à fait. Mais je pense que ça va arriver.
Ça va arriver, ils vont finir par comprendre que c'est leur intérêt, vous pensez?
Bah, je pense, parce que c'est... Oui, c'est... Enfin, en final, moi, j'ai voulu le soutien, je ne l'ai pas obtenu.
Si vous ne l'obtenez pas, alors qui l'obtiendra?
C'est une question de temps, je pense que ça arrivera. Mais au final, bon, je suis pas mécontente parce que j'étais plus libre au final pour faire exactement ce que je voulais malgré tout.
Qu'est-ce que vous vouliez exactement ?
Qu'est-ce que je voulais ? Non, quand j'ai été toquée à la porte, c'était pour avoir des véhicules, pour avoir des hélicos, pour avoir du soutien, quoi, parce qu'on avait un budget qui permettait pas de faire le film que je voulais. Et du coup,
Vous les avez eus, les hélicos, les...
Bah, on a été au Maroc, on a loué à l'armée marocaine et mon chef d'éco a repeint aux couleurs du camouflage français tous les véhicules. Donc c'est quand même un énorme boulot. Et on a changé toutes les insignes de béret, toutes les insignes là où il y a des droits, puisqu'on n'avait pas les droits de la Légion, on n'avait pas leur aval. Donc, oui.
Depuis lors, vous savez si des légionnaires ont vu le film
Oui, alors en fait, les gens qui bloquent, c'était trois personnes très haut placées, c'était pas du tout les légionnaires. Hein. Les légionnaires, ils étaient, enfin, pour le coup, comme j'étais en casting, j'ai fait lire le scénario, j'ai eu de l'aide beaucoup, j'ai eu des coachs anciens légionnaires sur le plateau, donc c'était très fluide avec les légionnaires, de toute façon, c'était juste la communication de la Légion qui bloquait. Et depuis qu'on fait des avant-premières et tout, oui, il y a eu des légionnaires qui ont vu le film et qui ont été assez... Enfin, moi, ça me touche beaucoup parce qu'en fait, autant les épouses que les légionnaires me remercient d'avoir rendu compte de leur vie à ce point et d'avoir mis en lumière un peu ce qu'ils vivent. Donc c'est assez chouette.
Je parlais des funérailles nationales de Maxime Blasco cette semaine. Vous les avez regardées ? Parce qu'au fond, ça rappelle tellement votre film.
Oui, bah, à chaque fois, c'est le 52e mort au Mali. Et à chaque fois, ça fait un choc. Et à chaque fois, je pense d'abord à sa compagne, à son enfant. Là, j'ai vu cette image de son petit garçon qui était bouleversante. Ouais.
Merci Rachel Lang. Mon Légionnaire, ça sort mercredi avec Louis Garrel et Camille Cotin.
Europe 1.